Bonjour Jean-Gilbert, bonjour aux amis, bonjour à la belle-mère, bonjour Pascal, content de vous avoir avec nous ce matin. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez tous très bien en ce mercredi 13 octobre 2021. Encore une belle journée en perspective. Il fait tellement beau ces jours-ci que le facteur humidex est de sortie. Hier, je crois, avec le facteur humidex, on montait jusqu'à 26 ou 27 degrés. Donc, ce qui est anormal pour la mi-octobre. Mais tous les amateurs de beau temps et de température estivale, dirais-je mieux, seront contents du temps qu'on a actuellement. Notamment celui qui vient de se connecter, le frère Claude Cinéas, que j'aime beaucoup, mais qui n'aime pas l'hiver. Donc on le salue. Oui, c'est un amateur de chasse, donc la saison devrait être agréable actuellement pour aller à la chasse. Bonjour Lucie, que Dieu vous bénisse. Buenos días, hermana Susana. Saludos a su esposo. Claude, tu n'es pas obligé de rajouter le nom de Jésus là-dedans, très content au nom de Jésus. Est-ce que tu vas dire la même chose en plein hiver, très content au nom de Jésus aussi? Tu es très content tout simplement. Et moi, je suis un peu triste. Mais il n'y a pas de trouble, c'est comme ça qu'on fait. Ça prend de tout pour faire un monde. Bonjour à mon père et à ma mère. Alors aujourd'hui, on continue notre étude de cette semaine concernant la tentation de Christ et les enseignements que nous pouvons en soutirer pour notre propre vie. On rentre dans le creux du sujet aujourd'hui. Alors, on vous rappelle deux choses importantes. Ce soir, il y a études bibliques à l'église. Et pour y assister, puisqu'on peut y assister en présentiel, pas besoin d'inscription le mercredi soir. Donc, on vous invite à venir, ceux qui avaient l'habitude et ceux qui en ont la possibilité. On vous invite à être présent. De surcroît à cela, on vous rappelle que les inscriptions pour l'assemblée de dimanche ont cours. Les premières confirmations vont avoir lieu ce soir, après l'étude biblique. Donc, si vous voulez participer en présentiel à l'assemblée de dimanche, vous pouvez le faire en vous inscrivant par courriel, à l'adresse de l'église, ou sinon en m'appelant et en laissant un message sur le répondeur de l'église. Prenez le temps aussi de saluer la sœur Pascal. Elle a vécu des moments difficiles dernièrement. Vous savez qu'on a célébré les funérailles de son époux samedi dernier. Donc, ces derniers mois ont été très demandants pour elle. On est content de l'avoir avec nous aujourd'hui. Que Dieu puisse la bénir et prions que Dieu renouvelle ses forces. Comme vous savez, ça a été très exigeant pour notre sœur. Donc, prions pour elle. N'oublions pas aussi leur fils, Jean-Bernard, qu'on a eu la grâce de rencontrer samedi. que le Seigneur puisse se révéler à lui, le soutenir. Il a un examen important pour l'école ce vendredi. Donc, passer à travers le deuil d'un papa et puis passer en même temps un examen, ce n'est pas évident. Donc, soutenez Jean-Bernard dans la prière et puis aussi entourez la sœur Pascal de votre affection. Bonjour Thérèse, sois bénie. Ici, il est 8h25 et ça fait pratiquement une minute que j'ai vu ton nom apparaître, mais j'étais en train de parler. Donc, Thérèse, tu arrives de plus en plus tôt. Bientôt, tu vas faire concurrence avec ceux qui se connectent à 8h18. Il y en a qui se connectent à 8h18 et c'est comme si je suis en compétition avec eux pour voir qui va inscrire le premier mot, la première salutation. Donc, il y en a qui sont très fervents là-dedans. Bonjour la belle-mère. Que Dieu vous bénisse. Ni hao, yaoi, yezuai ni. Bonjour Guy. Alors le pasteur André me disait dimanche que tu n'étais pas en forme. J'espère que ça va mieux. Que Dieu te bénisse, Guy. Merci du rappel, je viens de le voir apparaître effectivement, comme quoi aujourd'hui c'est l'anniversaire de la sœur Yolaine Pierre-Étienne, mais comme elle n'est pas encore connectée ce matin, on va attendre avant de lui envoyer nos salutations, mais ça ne saurait tarder. J'essaie de voir s'il y a d'autres personnes aujourd'hui, mais non, du moins j'ai quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas quelqu'un qui se connecte avec nous le matin. Encore 4 minutes environ avant que nous débutions. Bonjour Maggie, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous voir ce dimanche. Soyez bénis. Donc on vous rappelle, et je vais le faire encore tout à l'heure à la toute fin, on vous rappelle deux éléments importants. Donc, ceux qui voudraient assister ce soir à l'étude biblique en présentiel à partir de 19h, vous pouvez vous présenter à l'église un peu avant. Il n'y a pas d'inscription le mercredi. Bien sûr, on tient un registre. La loi nous le demande. Donc, vous aurez à vous soumettre port du masque, lavage des mains, prise de température, et puis mention dans un registre, comme on le fait le dimanche, mais pas la peine de s'inscrire. C'est moins compliqué d'enregistrer une vingtaine ou une trentaine de personnes qu'enregistrer 100 ou 150 personnes comme le dimanche. Donc, ceux qui voudraient se présenter ce soir, vous pouvez le faire à partir de 6 heures, il y a toujours quelqu'un à l'église. Donc, si vous en avez l'occasion, on vous invite à être là. De surcroît à cela, les inscriptions pour l'assemblée de dimanche en cours. Donc, vous pouvez soit nous écrire par courriel à secrétariat EAJC, en un seul mot, secrétariat EAJC, à commercial@gmail.com, ou alors nous appeler au numéro de l'église et laisser votre message. Le numéro est toujours le même, 514-273-8295. je mentionnerai tout cela encore tout à l'heure à la fin de notre rencontre. Bonjour Daniel, content que tu sois là ce matin, sois béni. Hello Sylvia, God bless you. Greetings to Pastor David also. Hope you and him are enjoying the last few days of summer heat, because next week is a bit colder, let's say cooler. Bonjour Rachel, que Dieu te bénisse, bonjour aux sœurs qui sont avec toi. On ne les oublie pas, la sœur Auxilia, la sœur Mona, la sœur Chantal. Soyez toutes trois bénies et merci Rachel de continuer à faire le lien avec ces sœurs qui peuvent ainsi assister à la bénédiction matinale. Bonjour Denise, bonjour Gérard, soyez bénis. Encore une minute et on va commencer. Vous pouvez déjà ouvrir vos Bibles dans Matthieu chapitre 4. Donc si vous voyez la sœur Yolaine Pierre-Étienne qui se connecte pendant notre leçon de ce matin, pendant l'enseignement de ce matin, n'oubliez pas de lui souhaiter un joyeux anniversaire. C'est son anniversaire aujourd'hui. Yolaine, qui à l'instar de ma belle-mère, fréquente notre église de Pierrefonds. Alors prions pour débuter. Merci Seigneur pour cette occasion que tu nous donnes encore une fois d'être rassemblés, même à distance, pour étudier ta parole, pour être nourris, pour être exhortés par elle, pour être mis au défi par elle, et dans le cas de cette semaine, pour être équipés pour résister au diable, équipés pour faire face à la tentation. Alors merci d'ouvrir notre compréhension, alors que tu déjoues les plans de l'ennemi à travers cet enseignement. Nous te demandons, Seigneur, que toute cette séance soit couverte par ton sang précieux. Permets-nous de bien expliquer les choses. Permets-nous de bien saisir les choses. Et au-delà de cela, Seigneur, même, permets-nous de bien appliquer ce que nous partagerons aujourd'hui. Alors, en toute chose, merci de prendre soin de nous. Merci d'être présent. Et merci de bénir ma sœur, mon frère et toute personne qui se joindra à nous aujourd'hui ou en différé, qui écoutera cet enseignement. Qu'une même bénédiction, qu'une même grâce abonde et surabonde dans la vie des uns et des autres. Nous t'avons prié dans le précieux, glorieux et merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alors, je lis pour vous dans Matthieu 4, du verset 1 à 11, et je rappelle la thématique de cette semaine, la tentation de Christ et ses leçons pour nous. La tentation de Christ et ses leçons pour nous. Alors, Matthieu 4, le verset 1 nous dit, « Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. » Car il est écrit, il donnera des ordres à ses gens, à ses anges, à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Je reprends pour vous les versets 2, 3 et 4 qui sont à la base de notre réflexion de ce matin. Première tentation ou première étape de cette tentation à laquelle est confronté Jésus. Le verset 2 nous dit « Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors que le Seigneur bénisse sa parole ce matin. On va voir à travers aujourd'hui les deux prochaines journées, une progression dans la tentation à laquelle Jésus est confronté. Aujourd'hui, c'est comme la première étape de cette tentation. Hier, on a vu une certaine mise en contexte. On a vu que cette tentation survient après que Jésus ait été baptisé par Jean-Baptiste et que cette voix ait été entendue du ciel en disant « Voici mon Fils ». En qui j'ai placé toute mon affection. On a fait la différence entre l'épreuve et la tentation. La Bible nous dit dans Jacques 1, le verset 13, que Dieu ne tente personne et qu'il ne faut donc pas, lorsqu'on est en tentation ou en période de tentation, accuser Dieu de nous tenter. La grande différence entre la tentation et l'épreuve qui vient de Dieu, la tentation bien sûr vient du diable et sert à comme objectif à nous faire chuter, à nous faire bifurquer de la volonté de Dieu, à nous éloigner de la volonté de Dieu et par conséquent à nous mettre dans une condamnation et à nous détruire spirituellement. L'épreuve qui dans ce cas-ci vient de la part du Seigneur, l'épreuve a comme objectif de révéler, non pas à Dieu, puisqu'il connaît de quoi nous sommes faits, mais révéler notre nature, nos limites et notre besoin indéniable, constant, d'être entouré, d'être protégé, d'être assisté de Dieu. Donc la tentation sert notre destruction ou vise notre destruction, alors que l'épreuve à laquelle Dieu nous soumet sert à révéler pour nous, à nous faire comprendre les limites qui sont nôtres et nous permettre par conséquent de chercher auprès de Dieu ce qui nous est nécessaire. On a vu aussi une erreur théologique qui se fait parfois lorsque on dit que pour Jésus c'était facile parce qu'il était 100% Dieu. C'est pas la partie divine de Dieu qui a été tentée, c'est la partie humaine et Jésus était oui 100% Dieu, 100% divin, mais Jésus était aussi 100% homme. Et dans cette tentation et dans cette lutte à laquelle il était confronté, il a été tenté, tel que le terme le dit. Donc il n'a pas passé par un moyen plus facile, il ne l'avait pas plus facile que nous, comme on dit en bon québécois, il était tout autant tenté, il était tout autant sujet à prendre une décision quant à obéir à Dieu ou quant à désobéir à Dieu lors de cette tentation. Alors voilà ce qu'on a spécifié hier. Aujourd'hui, donc, on s'arrête sur cette tentation où Jésus, après 40 jours de jeûne et de prière, a faim. Le diable se présente devant lui et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, alors tu es capable d'ordonner à ces pierres de se changer en pain. Fais-le donc. » Et Jésus de lui répondre, « Il est écrit, Donc, il se réfère à la parole de Dieu. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 6 points importants au niveau de la tentation par elle-même, 6 points à décortiquer de cette tentation, et puis par la suite, 6 points aussi concernant la réponse de Jésus. Alors, allons-y. Premièrement, concernant la tentation, comprenons une chose, ça se passe après les 40 jours et 40 nuits de jeûne de Jésus. Très régulièrement, vous remarquerez que vous êtes plus sujet, plus prompt à la tentation ou plus sujet à céder à la tentation lorsque vous êtes dans un état de fatigue, que ce soit une fatigue physique, une fatigue psychologique ou une fatigue spirituelle. Le diable, contrairement à Dieu, n'est pas capable de tout faire, n'est pas tout puissant. Alors, il jauge ses actions, il jauge son travail pour essayer de maximiser ce travail et le rendre de plus en plus efficace ou le rendre plus efficace contre nous. Par conséquent, si le diable voit effectivement que nous sommes dans une période de fatigue, et j'ai dit tout à l'heure physique, psychologique, spirituelle, s'il existe d'autres types de fatigue, vous les rajoutez là-dessus, mais quand il voit une faiblesse chez nous, c'est cette faiblesse qu'il va essayer d'utiliser. Alors, il voit ici que Jésus a faim, ce qui n'est pas un mal en soi, ce qui n'est pas une carence ou une tare en soi, mais le diable va quand même utiliser ce contexte, cette situation, entre guillemets, de faiblesse de Jésus pour essayer de le tenter. Il en est de même pour nous. Vous remarquerez, comme je l'ai dit tout à l'heure, très régulièrement, la tentation va venir dans des moments où vous êtes effectivement plus surmené, plus fatigué, ou va utiliser des sujets sur lesquels vous êtes plus sensible, des sphères, des aires de votre vie, ou des secteurs, plutôt je cherchais le mot, des secteurs de votre vie dans lesquels vous êtes plus sujet à céder. Le diable, comme j'ai dit, ne monopolise pas la puissance. Le diable n'a pas la toute-puissance de Dieu, donc doit faire attention à ses efforts, doit cibler ses actions, et régulièrement, il va les cibler lorsque nous sommes en période physiquement, psychologiquement, spirituellement moins en forme. Par conséquent, soyons plus prudents peut-être dans ces périodes-là, sachant que le diable, tel que la Bible nous dit, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelle proie il dévorera. Et lorsqu'on le lion attaque une bête, il n'attaque pas dans le troupeau la bête la plus forte, la plus costaude, celle qui a l'air le plus en forme. Il va attaquer en général la bête la plus faible, soit la plus vieille qui a de la misère à se mouvoir, soit la plus jeune qui n'est pas aussi rapide et aussi rusée que ses congénères. Donc le lion va utiliser la faiblesse de sa proie pour l'attaquer. Le diable va faire la même chose. Deuxième point, la tentation qui vient est au sujet purement humain. Il y a des gens qui spiritualisent les choses en disant « j'ai été tenté spirituellement ». On n'est pas tenté spirituellement, on est tenté dans notre nature humaine et dans les choses qui sont propres à notre nature humaine. La tentation, c'est pour nous inciter à pécher. La tentation, c'est pour nous amener à sortir du plan de Dieu et à poser des actions, à poser des gestes tout à fait humains, tout à fait tangibles, tout à fait palpables répréhensibles. Donc, la tentation va être sur des sujets purement humains, sur des tentations purement humaines. C'est la chair qui est affectée, c'est la chair qui est tentée, et par conséquent, ce sont sur des choses purement humaines. Ceux qui spiritualisent cette notion de tentation, soyons très clairs, lorsque Jésus a été tenté, c'est parce qu'il avait faim physiquement. Le diable lui a proposé, tu as faim physiquement, fais telle chose. Tu crois en Dieu, qu'il te protège, alors fais telle chose, jette-toi en bas. Tu estimes Dieu et tu adores Dieu, laisse-le de côté pour m'adorer à moi, fais quelque chose de concret, mets-toi à genoux, adore-moi. Donc c'est une réponse tout à fait tangible, tout à fait palpable que le diable va essayer d'avoir chez nous et non pas quelque chose de flou, de métaphysique, spirituel ou machin. Non, c'est dans des sujets qui sont purement humains à travers lesquels le diable va nous tenter. Qu'est-ce qui se passe ici? Il va lui dire, si tu es fils de Dieu. Donc, un des premiers points de la tentation va être de mettre en doute notre statut en Christ, mettre en doute notre statut dans le Seigneur. Le diable va utiliser ce que Jésus est, oui, il est fils de Dieu, en lui disant, ben, si tu es vraiment ça, voici ce que tu devrais être capable de faire. Et souvent, le diable va nous attaquer, effectivement, par rapport à notre statut. Il y a des gens qui vivent des années et des années et des années, et ils ne sont toujours pas convaincus de leur salut. Ils vivent sous l'oppression même du diable, qui est constamment là, avec une foule de pensées. Et quand on pose la question à ces gens, « Es-tu sauvé ?» Ils sont incapables de dire « Oui, je suis sauvé. » Il doit y avoir une assurance à notre salut. Et la tentative du diable, c'est effectivement d'ébranler notre foi dans le salut qui nous est accessible à travers Christ. Donc la tentation va venir nous mettre en doute notre statut auprès de Christ. Es-tu ou n'es-tu pas un enfant de Dieu? Es-tu ou n'es-tu pas racheté? Es-tu ou n'es-tu pas pardonné? Es-tu ou n'es-tu pas sauvé? Es-tu ou n'es-tu pas un membre du corps de Christ, un soldat dans l'armée de Christ? Donc le diable va venir nous attaquer sur notre statut. La tentation et notre réponse à la tentation, ou quand on cède à la tentation, ça vient mettre un doute sur notre statut avec Christ. La deuxième mise en doute, le diable va lui dire, « Regarde, si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'elles deviennent des pains. Fais usage de ta puissance, fais usage de ce que tu es, et puis change les circonstances. Montre-nous si tu es vraiment fils de Dieu. » Donc, la deuxième mise en doute que le diable va initier chez nous, c'est une mise en doute de nous-mêmes et de nos capacités. Tout d'abord, une mise en doute de notre statut par rapport à Christ. Puis, une mise en doute de nous-mêmes. Regarde, je sais que tu n'es pas capable. Regarde, je sais que tu n'y arriveras pas. Et combien de fois le diable réussit à nous convaincre que nous sommes trop faibles, nous sommes trop petits, nous sommes trop seuls, nous sommes trop ceci ou trop cela, ou pas assez ceci ou pas assez cela, pour effectivement faire ce que Dieu nous a appelés à faire. Combien de fois on va se réfugier derrière cette fausse excuse, « Ah, je suis humain, je suis faible, la chair est faible. » Mais c'est pas parce que la chair est faible que le Dieu que je sers est faible. La Bible me dit que je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, mener une vie intègre devant Dieu, c'est possible. Mener une vie justifiée devant Dieu, c'est possible. Mener une vie approuvée de Dieu, c'est possible, puisque je puis tout par celui qui me fortifie. Mais la tentation va venir saper notre morale, saper notre confiance, saper notre assurance et venir nous faire dégringoler dans notre estime de soi, dans nos capacités ou dans notre, comment je dirais, notre hardiesse à faire les choses pour Dieu. Le diable va venir et dire, mais regarde, tu n'es pas capable d'aller parler. Regarde, tu n'es pas capable d'aller témoigner. Regarde, ils ne t'écouteront pas. Tu n'as pas le cran, tu n'as pas l'allure, tu n'as pas le discours, tu n'as pas les mots pour que les gens s'arrêtent à tes propos. Et le diable va venir nous minimiser, nous convaincre que nous ne sommes pas à la hauteur. Il a raison. Je ne serai jamais à la hauteur du plan de Dieu par moi-même. Mais parce que Christ vit en moi, parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, alors je puis toutes choses par celui qui me fortifie. Donc on a vu tout d'abord, le diable vient nous tenter dans une période où on est plus fatigué, psychologiquement, physiquement, spirituellement. La tentation vient sur des choses purement humaines, des choses de notre quotidien. Le diable va venir mettre en doute notre statut auprès de Christ et puis va mettre en doute nos capacités, nos habiletés, capacité à obéir et à remplir le mandat de Dieu. Puis, le diable va dire, ordonne à ces pierres qu'elles deviennent des pains. Dieu a créé ces pierres pour qu'elles soient des pierres, non pas pour qu'elles soient des pains. Effectivement, Dieu a toute la puissance pour changer les pierres en pains. Mais s'il a créé des pierres, c'est parce qu'il voulait que ces choses-là soient des pierres. Qu'est-ce que je veux dire ici? C'est que le but essentiel de la tentation, c'est de te faire bifurquer du plan de Dieu, de t'éloigner du plan de Dieu, vouloir changer les choses que Dieu a établies pour opter pour autre chose. Et ça, le diable l'a fait depuis le tout début. Lorsque le diable se présente à Adam et Ève dans le jardin d'Éden sous la forme du serpent et qu'il leur pose la question « Est-il vrai que Dieu a dit que vous ne deviez pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal ?» Et Ève qui lui répond « Effectivement, Dieu nous a dit de ne pas en manger parce que si on en mange, on va mourir. » Et le diable de lui répondre « Mais ce n'est pas vrai. En fait, Dieu sait que si vous en mangez, alors vous serez comme des dieux. » Qu'est-ce que le diable initie dans la pensée d'Adam et Ève? Il initie dans cette pensée la possibilité d'être autre chose que ce que Dieu avait établi pour nous, voire de ne plus être humain, mais d'être à la hauteur même de Dieu, en compétition avec Dieu, être capable d'être autant que Dieu. C'est ce que le diable a proposé à Adam et Ève, ou c'est ce qu'il leur a menti, ce qu'il leur a dit à travers son mensonge. Regardez, si vous en mangez, vous ne serez plus comme des hommes communs, vous serez maintenant hors du commun, vous serez à la stature même de Dieu. Ne vous contentez pas de votre stature humaine si vous pouvez atteindre une stature encore plus grande, celle qui est égale, qui équivaut à Dieu. Et ce faisant, le diable proposait donc de laisser tomber ce que Dieu avait établi pour se tourner vers une illusion d'être autre chose. Le diable, à travers la tentation, va nous pousser à bifurquer du plan de Dieu et des choses établies par Dieu. Dernière notion par rapport à la tentation, le diable va dire « Hey, tu as faim. Alors arrête de jeûner, arrête de te priver, change ces pierres en pain et mange. » Si ça parle non seulement de bifurquer du plan de Dieu, ici ça traite aussi du fait de prioriser nos désirs avant le plan de Dieu. Satan est en train de dire « Regarde, il y a des pierres autour de toi là. Dieu a établi, oui, que ça serait des pierres et c'est des pierres. Mais toi, change ces choses-là pour que ça devienne autre chose que des pierres et qu'elles te soient profitables. Parce que ce que tu veux actuellement, c'est de manger, c'est d'avoir du pain. Alors change ces choses-là. Mets-toi à l'avant. Que ce soit avec Adam et Ève où il a incité chez eux ou suscité chez eux ce désir d'être égal à Dieu et de changer le plan de Dieu, mais c'était aussi de mettre leur désir à l'avant par rapport à Dieu. Dieu veut que vous soyez humain, Dieu veut que vous soyez création et créature de Dieu, mais moi je vous dis que vous pouvez être autre chose. Et le diable va donc insuffler ça dans le cœur d'Adam et Ève, et ce faisant, ils vont décider de prioriser leur propre désir, leur émancipation, entre guillemets, mais ça a plutôt été une régression, une dégression de la part d'Adam et Ève une fois qu'ils ont mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal. Mais le diable leur a proposé de prioriser leurs désirs, leurs ambitions personnelles sur la volonté de Dieu. On retrouve la même chose un peu plus tard dans l'histoire d'Israël, lorsque Ésaü revient et il voit son frère qui a préparé des lentilles. Ésaü est allé à la chasse. Il dit, regarde, je te donne mon droit d'aînesse parce que il me sert à rien si je meurs de faim. Je veux des lentilles. C'était laisser de côté la volonté de Dieu, laisser de côté les choses établies par Dieu pour mettre en priorité les désirs humains, temporels et temporaires qu'Ésaü pouvait avoir connus. Même si Ésaü est en train de dire « Hey, je vais mourir si je ne mange pas », on s'entend tous. C'est une famille bien portante, on s'entend tous. C'est une famille qui est quand même assez nantie. Il y a des brebis, il y a assurément du pain quelque part qu'il pourrait manger. Il y a assurément du raisin, des fruits, des légumes qu'il pourrait manger. Mais il regarde son frère en disant « Donne-moi à tout prix ce plat parce que je suis en défaillance, j'ai faim. Et à quoi me sert le droit d'aînesse si je n'ai rien à manger ?» Donc, Ésaü va mettre de l'avant ses propres désirs prioritaire face à la volonté et au plan de Dieu. Maintenant, quelle est la réponse de Jésus? La réponse de Jésus, elle est simple. Il est écrit. Donc Jésus vient s'ancrer, vient se réfugier de façon immédiate dans la parole de Dieu. Et ça devrait être le réflexe de chacun d'entre nous. On arrive face à une situation, on arrive face à une problématique, on arrive face à une tentation, on arrive face à un contexte qui nous est inconfortable, notre premier refuge et la base de notre vie devrait être la parole de Dieu. Donc Jésus, pour résister au diable, va s'ancrer et se réfugier de façon immédiate dans la parole de Dieu. Mais pour ce faire, encore faut-il connaître la parole de Dieu. Et voilà pourquoi on ne saurait assez insister sur l'importance primordiale dans la vie du croyant d'étudier, de méditer, de lire, d'apprendre, de connaître la parole de Dieu. Plus je l'étudie, plus je la médite, plus je suis à même de répondre face à la tentation à travers la parole de Dieu, telle que Jésus nous l'a enseignée. Donc, le premier point dans la réponse, c'est un ancrage et un refuge immédiat dans la parole de Dieu. Mais Jésus va plus loin. La Bible nous dit, Jésus répondit, il est écrit. Donc, Jésus va proclamer la parole de Dieu. Il y a une puissance dans la proclamation audible de la parole de Dieu. Il y a une puissance dans le fait de proclamer, de réciter, de citer la parole de Dieu. En partant, lorsque je cite la parole de Dieu, je me lie un peu avec cette parole. Cette parole va me lier. Je ne peux pas dire « il est écrit, voici, ne faites pas telle chose » et me mettre à faire telle chose. Je ne peux pas dire « voici, il est écrit, vous devriez faire telle chose » et faire le contraire. Donc la parole de Dieu va dans sa proclamation, non seulement a-t-elle une puissance au niveau spirituel, mais de surcroît à cela, Il y a cet engouement, il y a cette force qui réside dans le fait de la proclamer, parce que la proclamant, je me lis à travers elle, je me lis à elle. Et Jésus savait non seulement se réfugier, s'ancrer dans cette parole, mais il connaissait l'importance de proclamer la parole de Dieu. Jésus va dire, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors Jésus ici va dire, par rapport à la faim que j'ai, par rapport à ce désir que j'ai d'avoir du pain chaud, du pain qui vient juste d'être cuit, qui sent bon, qui coûte bon, qui est encore tout moelleux mais croquant à l'extérieur, en dépit de ce désir humain, correct, qui n'est pas corrompu et qui n'est pas mauvais en soi, en dépit de cela, Jésus va dire, je priorise la parole de Dieu. Lorsqu'il dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est que Jésus dit, il y a une chose, il y a un temps pour tout. Et par rapport à tout temps, par rapport à tout instant, la parole de Dieu prime sur mes désirs, prime sur les situations présentes. Lorsqu'on est tenté et lorsqu'on cède à la tentation, on est en train de faire passer notre désir de l'instant présent par rapport à la parole et au plan de Dieu. Donc Jésus va prioriser la parole de Dieu face aux situations présentes. Il va avoir ce réflexe de dire par rapport à cette situation, qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Il va avoir ce réflexe non seulement de réfléchir, mais de proclamer ce que la parole de Dieu dit par rapport à une telle et une telle et une telle situation que je peux rencontrer. Et par rapport à cela, je priorise la parole de Dieu versus ma faim, mon désir d'avoir du pain. Jésus va dire, je priorise aussi le plan de Dieu par rapport à mes désirs personnels. Le plan de Dieu, c'est que ces roches soient des roches. Si Dieu avait voulu que ces roches soient des pains, il les aurait déjà transformées en pain. Le désir de Dieu, c'était que ces roches soient des roches. C'était le plan, c'était l'appel, c'était la vocation que ces objets avaient d'être des roches et non pas des pains. Et Jésus va soumettre ses désirs personnels à la volonté de Dieu. Il va soumettre ses besoins même personnels à la volonté de Dieu. Et à l'occasion, effectivement, la tentation du diable va être de nous pousser à mettre nos propres attentes, nos propres aspirations, nos propres désirs, notre propre faim, nos propres besoins au-devant du plan de Dieu. Si Jésus avait fait cela, non seulement le jour de la tentation, mais plus encore le jour de la crucifixion, si Jésus avait mis ses plans avant les besoins, ses désirs avant le plan de Dieu, bien à ce moment-là, Jésus ne serait pas mort ni pour toi ni pour moi. Jésus a accepté la croix parce qu'il a fait passer le plan parfait et excellent de Dieu avant ses désirs, avant ses priorités purement humaines. Donc, prioriser le plan de Dieu face aux désirs humains. Et lorsque Jésus dit, il est écrit, la Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Qu'est-ce que Jésus affiche? Il affiche sa foi en la véracité absolue de la parole de Dieu. Il est en train de dire, je fais confiance à la parole de Dieu qui me dit, même si j'ai faim, que l'homme, pour lui, il est plus important de manger la parole qui sort de la bouche de Dieu que de manger du pain que j'aimerais tant manger à l'instant présent. Donc, cette parole proclamée de Jésus va faire en sorte que sa foi soit affichée, foi envers la véracité, la vérité absolue que représente la parole de Dieu. Très souvent, on se tait dans la tentation, très souvent, on ne cite pas la parole de Dieu parce qu'il y a une espèce de doute qui s'est immiscé en nous. Mais tout d'un coup que Dieu n'est pas au rendez-vous, tout d'un coup que je flanche, tout d'un coup que ceci, tout d'un coup que cela, même si tu flanches, ça ne change pas la réalité, la véracité, la vérité de la parole de Dieu, et celle-ci se doit d'être proclamée. En fait, plus je me tais, plus je permets au diable, en fait, de ne pas de travailler dans ma tête, plus je me tais, moins je prends un pas d'assurance et un pas de foi par rapport à la parole de Dieu. Et ma foi doit s'afficher, ma foi doit s'entendre. La foi de Jésus ici, c'était de dire, moi je crois ce que la Bible dit, moi je crois la parole de Dieu, et ce que la parole de Dieu dit, c'est qu'au lieu du pain, il est plus important pour l'homme d'entendre, de recevoir, de se nourrir de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc avoir la foi en la véracité absolue de la parole de Dieu. Et là, Jésus est aussi en train de dire, il y a deux besoins. Besoin de manger, besoin de me nourrir spirituellement. Besoin de rassasier mon corps physique ou besoin de rassasier mon âme et mon esprit. Et Jésus va dire, dans tout cela, la parole de Dieu est parfaite. La parole de Dieu va me suffire. Alors Jésus est en train de dire, oui, j'ai faim, mais pour ce moment précis, je sais que la parole de Dieu est encore et toujours ce qui m'est réellement, réellement, réellement nécessaire. Et ce qui peut pleinement combler ce qui m'est réellement nécessaire. Donc lorsque Jésus cite la parole de Dieu, ce qu'il est en train de faire, et c'est notre dernier point, il est en train de proclamer la parfaite suffisance de la parole et de la volonté de Dieu. Je prends une gorgée. Jésus est en train de dire, la parole de Dieu est parfaite. Et le plan de Dieu, du fait que je n'ai pas de pain autour de moi, c'est aussi parfait. Voyez la notion? La parole de Dieu est parfaite, ce qu'elle proclame sur mon contexte, sur mon environnement est parfait, et de surcroît à cela, ce que la volonté de Dieu suscite dans ma vie, ce que la volonté de Dieu amène ou trace comme chemin pour moi, c'est aussi parfait. Est-ce que j'ai cette même foi envers la parole de Dieu et envers le plan de Dieu? Est-ce que j'ai cette foi d'être effectivement armé à travers la parole de Dieu de tout ce qui m'est nécessaire. Pour synthétiser un peu ce qu'on a vu ce matin, le diable va, à travers la tentation, nous pousser à douter de nous-mêmes, nous pousser à douter du fait que nous sommes enfants de Dieu, va venir nous pousser à bifurquer du plan de Dieu, de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu. Si je suis enfant de Dieu, je vais plutôt m'attacher à cette parole, m'attacher au plan de Dieu et accepter la pleine vérité de la parole de Dieu et la pleine suffisance de la volonté de Dieu. Jésus n'a pas changé les pains, les roches en pierre. Les anges sont venus le servir par la suite. Et on pense qu'effectivement, les anges l'ont nourri, les anges l'ont abreuvé, mais foncièrement, Jésus a accepté la volonté de Dieu, comme il va le faire quelques années plus tard, lorsqu'il va prier à Gethsémané, en disant, « Père, si tu pouvais éloigner cette coupe de moi, mais en toute chose, que ta volonté soit faite. » Jésus va se plier à la parfaite et suffisante volonté de Dieu, à la parfaite et suffisante parole de Dieu pour accomplir de façon palpable, tangible, délibérée, la volonté et la parole de Dieu. Alors j'espère que vous avez été bénis ce matin. Demain, on va continuer avec les versets 5, 6 et 7. Jésus qui est amené sur le haut du temple et le diable qui va lui dire « Jette-toi en bas parce qu'il est écrit que les anges te porteront. » Donc, on va voir quelle est cette tentation, quels sont les détails de cette tentation et quelle est la réponse que Jésus a offerte. Et la réponse va commencer encore une fois à travers la parole de Dieu. On se réfugie, on se base, on s'ancre dans la parole de Dieu pour résister au diable. Alors Seigneur, je te prie pour nos frères et nos sœurs ce matin, que ta grâce et ta bénédiction reposent sur eux. Merci Seigneur de nous enseigner, merci Seigneur de nous apprendre comment résister au diable, comment lui dire « Tu n'as pas le droit sur moi ». Tu n'as pas de droit sur moi, ma vie appartient et ma vie est soumise à Christ, mon roi, mon Seigneur. Je me réfugie dans ta parole, Seigneur, je me réfugie dans tes promesses, je me réfugie dans tes conseils, dans tes commandements, dans tes préceptes pour mener une vie victorieuse et une vie honorable devant le roi des rois. Alors bénis ma sœur ce matin, qu'elle soit forte par rapport à la tentation, par rapport aux suggestions du diable. Bénis mon frère, qu'il soit courageux, qu'il ait de l'hardiesse pour résister au diable, qu'il ne soit pas nonchalant, qu'il ne cède pas devant le diable, mais qu'il soit solidement ancré et réfugié dans ta parole. J'appelle ta bénédiction sur eux et sur nous tous. Que ta gloire, Seigneur, nous environne. Nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, simplement deux ou trois petits rappels. Premier rappel, et je l'ai vu arriver pendant l'enseignement, on l'a dit tout à l'heure, si vous voyez la sœur Yolaine Pierre-Étienne qui se joint à nous aujourd'hui, c'est son anniversaire, alors ne manquez pas de lui souhaiter un joyeux anniversaire. De surcroît à cela, deux annonces importantes, ce soir, 19h, études bibliques sur toutes les plateformes Internet de l'Église, mais de surcroît à cela, aussi en présentiel. Alors, si vous vouliez assister à l'Assemblée de dimanche, de ce soir plutôt, à l'étude biblique de ce soir, à 19h, vous venez un peu avant, vous remplissez les critères pour rentrer, donc pas de signe grippaux, pas de fièvre, vous portez le masque, on se tient à distance les uns des autres, et donc on assiste sans inscription le mercredi soir. Par contre, pour le dimanche matin, on reste avec les inscriptions pour l'instant. Donc, 100 places de disponibles environ. Les inscriptions se prennent par courriel, au courriel de l'Église. Ce n'est pas Messenger. Faites attention, ce n'est pas Messenger. C'est vraiment par un courriel traditionnel. Vous écrivez à secrétariat EAJC. Secrétariat EAJC. En un seul mot, pas d'accent. Et à commercial@gmail.com, secrétariat EAJC, @commercial@gmail.com, ou vous nous appelez au numéro de l'Église 514-273-8295, 514-273-8295, et vous vous inscrivez pour l'Assemblée de dimanche. Alors sur ce, que Dieu vous bénisse, on se retrouve ce soir avec le pasteur Sergio pour l'étude biblique, sinon ce sera demain matin avec la deuxième étape de la tentation de Christ et de ses leçons pour nous. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous. Au revoir.